Écoutez IDFM en DAB+ sur toute l'Île-de-France.
Et nous sommes avec Juliette Joasil. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin. Vous arrivez tout droit de Butry-sur-Oise, dans le Val d'Oise. C'est loin d'ici pour arriver jusqu'à chez nous ou pas?
Non, ça va, là je suis venue en train, mais sinon en voiture c'est une petite demi-heure.
C'est un village, oui.
C'est un
assez
petit...
tranquille.
Ah oui, c'est vraiment un petit village entre Auvers-sur-Oise et l'Isle-Adam, donc vraiment une belle région, un beau coin.
Et vous êtes notamment sophrologue. Et comment vous avez atterri là-bas, dans cette, dans le département et sur cette commune val-d'oisienne?
Alors, j'ai toujours vécu dans le Val-d'Oise. Et avant, j'étais sur Saint-Gratien. Et puis finalement, on a cherché une maison avec mon conjoint. Donc, on s'est éloigné un petit peu plus côté campagne. Et finalement, le coin me plaît davantage parce que justement, on a vraiment la nature à proximité. Enfin, des chemins de randonnée, la forêt, donc c'est vraiment un coin super. Et puis des petites villes touristiques comme l'Isle-Adam ou Auvers-sur-Oise qui sont vraiment agréables pour sortir aussi.
Et oui, c'est ce que vous recherchiez par rapport aussi à votre activité. Vous êtes notamment sophrologue, mais aussi sylvothérapeute.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est nouveau en fait, non?
C'est assez récent. Enfin, en fait, je pense que c'est, oui, c'est connu depuis un petit moment, mais là, ça se développe beaucoup
tout
en ce moment.
Tout à fait. On ne caresse pas les arbres, mais en tout cas, il y a un lien très fort entre l'homme et l'arbre. Hein. Expliquez-nous un petit peu plus la sylvothérapie, du coup.
Alors, la sylvothérapie, qu'on appelle aussi bain de forêt ou thérapie par les arbres, c'est vraiment une pratique douce, en fait, vraiment au contact de la nature. Et on va tout simplement aller se promener, par exemple, en forêt, et on va faire des petits exercices de respiration, des immersions sensorielles pour vraiment se reconnecter aux arbres, à la forêt. Et en fait, c'est venir amplifier déjà le bien-être qui existe déjà quand on va se promener dans la nature, tout simplement.
Et vous avez appris où ?
Alors moi, je me suis formée à l'école de coach respiration de Jean-Marie Desfossés, qui a écrit plusieurs livres d'ailleurs sur la sylvothérapie. Et à la base, j'avais commencé en faisant des sophro-rando, qui ça ressemble un petit peu, mais j'avais fait une petite formation de sophro-rando, donc j'emmenais déjà des groupes dans la nature, voilà, pratiquer de la sophrologie en extérieur, et j'avais envie d'avoir plus d'outils plus concrets. Et donc j'ai fait cette petite formation de sylvothérapie pour compléter... pour élargir aussi l'offre. Et
ça surprend quand vous le proposez à certaines personnes, justement. Approchez-vous de l'arbre, n'hésitez pas à le découvrir. Pour une première approche, ça peut être surprenant quand on n'a pas forcément l'habitude. Et c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Hein, on le voit à travers différents sujets, télé, radio ou même encore presse écrite. Mais il y a quand même une forme de réticence au début.
J'ai pas eu de réticence, moi, dans les groupes que j'ai accompagnés, plutôt de la curiosité de voir qu'est-ce que c'est justement ces bains de forêt. Et puis vraiment non, plutôt justement de la joie et l'envie de découvrir. Et les gens se prennent vraiment au jeu, en fait. Parfois, on a l'impression d'être un peu comme des enfants qui viennent découvrir la forêt pour la première fois, qui viennent découvrir les matières, toucher, je sais pas, la mousse des arbres, les écorces, sentir les odeurs. Et puis on fait des petits jeux comme ça avec des immersions sensorielles. Et ce qui est marrant, c'est que peu importe l'âge des personnes, tout le monde se prend vraiment au jeu et s'amuse. Et même des gens qui aiment la nature et qui vont se promener souvent m'ont dit « Mais en fait, moi, je vois pas la forêt comme ça quand je vais marcher. » Là, c'est vraiment une approche qui est différente.
Et l'arbre parle ?
Alors, on peut écouter, voir s'il a un message pour nous.
Et du coup, c'est des séances qui durent combien de temps ? Comment ça se passe concrètement ? Donc, vous emmenez effectivement un groupe de personnes ou vous pouvez être seul avec une personne ?
Alors, ça peut se faire en individuel, effectivement. Je le propose aussi. Et là, pour l'instant, j'ai surtout accompagné des groupes. Généralement, je prends un maximum de 12 personnes. Comme ça reste quand même un petit groupe. Et comment ça se passe? Donc c'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie où on part voilà sur un circuit. Donc on marche un petit peu, on fait des marches respirées, puis on fait des pauses à certains endroits avec soit des exercices de respiration, des immersions sensorielles, des exercices auprès des arbres, et puis on reprend la marche avec d'autres marches respirées, etc. Il y a vraiment tout un parcours et un cheminement pour se reconnecter. Et je pense que 2 heures c'est bien et c'est le minimum parce qu'une heure c'est vraiment court pour entrer en contact vraiment avec la nature.
Vous avez découvert la sylvothérapie après la sophrologie ?
Oui. Oui, oui.
Et après aussi, parce que vous utilisez les fleurs de Bac. Hein.
Oui, tout à fait.
Vous faites trop de choses, en fait. Plein de choses.
Tout est... Bah, alors, les fleurs de Bac et la sophrologie, je dirais que c'est venu à peu près en même temps. Et la sylvothérapie, ça a été plus au hasard des rencontres. Parce qu'en fait, j'allais distribuer dans les pharmacies pour me présenter mes cartes de visite en tant que sophrologue. Et il y a une personne qui m'a dit « Est-ce que vous faites des sophro-rando ?» Et je connaissais pas. Et je me suis dit « C'est une super idée, en fait. » Et du coup, je me suis renseignée, je me suis formée pour organiser les sophro-rando. Et c'est par la suite, du coup, que ça m'a amenée à la sylvothérapie, puisque finalement, ça reste dans le même
donc
domaine.
Donc ces trois pratiques vont bien ensemble, finalement. Elles se rejoignent.
Oui, oui, oui. Ça, finalement, ça se retrouve.
Elle se complète. Si je fais que de la sophrologie, ça va quand même.
Oui, on peut faire juste de la sophrologie, on peut faire juste un entretien fleur de Bac ou juste une séance de sylvothérapie. Mais effectivement, finalement, tout se regroupe. Le but, c'est aussi de cheminer vers soi, de mieux se connaître, de s'écouter. Donc finalement, il y a quand même pas mal de points communs dans toutes ces méthodes.
C'est ça, ce que recherchent justement les personnes qui viennent vers vous, mieux s'écouter, faire attention aussi à l'environnement qui nous entoure, se connecter aussi avec tout ce que nous avons sous la main.
Oui, souvent les principales demandes, ça va être de prendre soin de soi, de faire une pause, d'apprendre à gérer ses émotions, gérer son stress aussi, parce que les gens qui viennent me voir souvent sont assez stressés. Après, en sophrologie, ça peut être aussi pour des troubles du sommeil, pour travailler la confiance en soi, préparer un examen, il y a vraiment plein de demandes.
Mais vous les emmenez aussi en forêt ?
Non, pas forcément.
Non, pas forcément.
Il y a des personnes qui sont juste suivies en sophrologie, qui viennent juste au cabinet ou d'autres qui viennent juste pour un entretien fleur de Bac. Et après, ça peut compléter aussi l'offre d'aller en forêt ou juste venir découvrir un bain de forêt en groupe. Enfin, il y a toutes les possibilités. On peut vraiment s'adapter à la demande de la personne, en fait.
Donc, le lieu où vous exercez, c'est chez vous depuis février 2022. Et l'échange sur une séance de sophrologie. Donc, c'est beaucoup écouter l'autre, lui donner aussi des pistes.
Alors oui, une séance de sophrologie, ça dure à peu près une heure. Donc effectivement, je reçois chez moi, j'ai une petite pièce aménagée.
Avec de l'encens, avec une musique zen.
Eh bien non, justement, on n'a pas besoin de tout ça pour la sophrologie. On peut juste... c'est un petit cabinet sympa, mais il n'y a pas forcément besoin de musique, parce qu'en fait, on guide vraiment juste avec sa voix. Et... une séance donc dure à peu près une heure. Il y a un petit temps d'échange forcément au début et puis surtout dans la première séance pour connaître la personne, voir son besoin. Et sinon, une séance de suivi, c'est un petit temps d'échange au départ, voir comment la personne se sent, si elle a pu s'entraîner un petit peu dans la semaine avec les exercices. Et ensuite, il y a surtout un grand temps de pratique des exercices de sophrologie que je fais avec elle. Donc je guide avec ma voix, je fais les mouvements en même temps. Et puis il y a aussi une partie relaxation plus statique où là la personne est juste assise ou allongée et elle part sur une visualisation positive pour l'aider à se rapprocher de son objectif. Et puis sur la fin, de nouveau, un petit temps d'échange si elle le souhaite, si elle veut partager ses ressentis, si elle a des questions.
Souvent, à chaque fois, ça part à partir de la respiration aussi.
Oui, alors, en sophrologie, on utilise beaucoup la respiration. Donc c'est vraiment des mouvements doux associés à la respiration. Des petits exercices simples qu'on peut refaire à la
c'est
maison.
C'est du sport, finalement.
C'est très,
dans
très doux.
Dans le sport aussi, il faut savoir bien respirer. Oui, c'est plus doux, bien évidemment. Là, on va pas faire une marche ou courir. Mais toujours, c'est essentiel, oui. Cette respiration.
Mais effectivement, on travaille...
Pour lâcher, en fait.
Oui, puis on travaille beaucoup son souffle, c'est vrai. Et effectivement, même un sportif pourrait venir pour justement travailler aussi sur sa respiration et l'améliorer.
Des gens qui sont peut-être trop dans le stress aussi viennent vous voir justement pour canaliser tout ça, essayer d'échanger avec vous et trouver des solutions.
Oui, c'est ça. Beaucoup de stress. Souvent, les gens qui viennent, il y en a qui vont être limite en burn-out ou juste qui ont du mal à gérer leurs émotions et qui en fait prennent pas le temps de s'écouter, de revenir à eux, de revenir à leur respiration, qui est un outil tout simple qu'on a tous à portée de main, mais qu'on n'utilise pas forcément. Et là, le but, ça va être vraiment qu'ils deviennent autonomes, en fait, que ce soit en fleur de bac, en sophrologie, enfin, qu'ils aient des petits outils pour prendre soin d'eux à la maison et finalement, au fur et à mesure des séances, devenir autonomes, pouvoir se prendre en charge par la suite par eux-mêmes et se détacher après du thérapeute.
Au travail, c'est facile aussi à appliquer. Je suis surmené, j'ai trop de travail. Mmh. À un moment donné, j'en peux plus. Je fais une pause, je m'isole, peut-être dans mon bureau, aux toilettes, je ne sais pas. Et là, je fais un des exercices que vous leur avez appris.
Oui, c'est vraiment des exercices qui peuvent être très courts. Ça peut prendre 3 minutes, enfin, pour refaire un petit exercice, pour se recentrer, pour s'apaiser. Donc vraiment, ça peut se faire n'importe où. Et le but, c'est vraiment de l'intégrer le plus possible. Ce qui marche en sophrologie, c'est de répéter les exercices un maximum. Pour voir des changements dans son quotidien. Bien sûr, une séance va faire du bien, mais si on veut voir des changements, le but, c'est que la personne puisse s'entraîner aussi et acquérir vraiment ses outils. Et pareil, la partie visualisation positive, on l'enregistre pendant la séance. Comme ça, la personne peut la réécouter chez elle, peut se faire une petite visualisation guidée qui dure à peu près 15-20 minutes. Et tout simplement, pareil, réentendre les messages positifs et se rapprocher de son objectif petit à petit.
Toutes ces méthodes sont praticables sur des enfants aussi ?
Oui, ça s'adapte.
Peut-être que vous ne le faites pas, vous faites plus les adultes ?
Alors, pour l'instant, oui, j'ai pris surtout des adultes, mais c'est vraiment un projet que j'ai, justement, de me former, faire des formations complémentaires pour prendre en charge aussi les enfants. Surtout que, enfin voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais aussi fait mon BAFA. Enfin, je travaillais déjà dans les centres de loisirs, donc c'est une population qui m'intéresse aussi. Et effectivement, que ce soit en sophrologie, en fleurs de Bac, pareil, on peut très bien faire des flacons de fleurs de Bac pour les bébés, pour les enfants, les femmes enceintes, enfin pour tout le monde. En fait, il y a aucun risque. Donc oui, c'est très intéressant pour toutes les tranches d'âge, en fait.
On va reparler des fleurs de Bac, on va reparler de vous dans un instant sur IDFM. Vous avez été aussi, juste auparavant, infirmière. Pourquoi ce changement aussi, un petit peu de vie ? C'est Juliette Joasil qui vous accompagne sur IDFM. Nous sommes en direct dans la matinale. Et maintenant, nous repartons en musique avec Georges Ezra.
There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, 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 let it be. Cut it.
IDFM Radio 98FM et IDFM98.fr, mais aussi en DAB+, et bien évidemment sur notre application depuis le mois de septembre. Nous sommes toujours ce matin avec Juliette Joasil. Nous parlons un petit peu de son parcours, de son activité de sophrologue, de sylvothérapeute, mais aussi de conseillère en fleurs de Bac. Bien sûr, vous n'avez pas appris tout ça d'un seul coup, ça s'est fait au fur et à mesure. Vous avez été notamment au sein d'un institut national de sophrologie pour avoir un petit diplôme, pour être reconnu quand même dans la profession et le métier. Ça ne s'improvise pas.
Oui, tout à fait. J'ai fait une formation du coup auprès de l'IFS, hein, qui est l'Institut de formation à la sophrologie. Puis j'ai passé également le titre RNCP, qui est la certification pour être reconnu en tant que sophrologue.
C'est des longues démarches ou pas du tout, ou ça va quand même?
Alors moi, ma formation de sophrologue, elle s'est faite sur un an. Ensuite, il faut qu'on encadre deux personnes et qu'on rédige un mémoire. Et on se présente ensuite devant un jury. Donc ça m'a pris quelques mois. Et puis, à peu près 4 mois après la fin de la formation, j'ai pu obtenir du coup la certification.
Et je rappelle que vous êtes sur Butry-sur-Oise, donc le Val d'Oise. Et est-ce que ça a été peut-être plus simple pour vous, le fait qu'auparavant, vous étiez infirmière ou pas du tout?
Oui, je pense que ça a beaucoup joué dans mon parcours. Donc j'ai travaillé comme infirmière pendant 7 ans. Alors j'ai travaillé en maison de retraite au départ pendant à peu près 3-4 ans.
Ici aussi sur le Val d'Oise.
Oui, c'était Maison Lafitte 78.
Pas très loin.
Et puis ensuite, je suis revenue en clinique de psychiatrie pendant 3 ans, donc ça m'a beaucoup plu aussi. Et en parallèle justement de mon travail d'infirmière, j'ai passé la formation de sophrologue. Mais je pense que vraiment le métier d'infirmière, ça m'a permis déjà d'être en contact avec les gens, de travailler tout ce qui est les qualités d'écoute, d'empathie. Surtout en psychiatrie, où on fait déjà pas mal d'entretiens infirmiers, donc on prend le temps d'écouter les gens, leurs problématiques. Et moi, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus, de toute façon, dans le travail d'infirmière. J'ai jamais voulu être dans les soins techniques, que ce soit en chirurgie, en médecine ou autre. C'est pas ça qui me plaisait. Donc, je me suis vraiment dirigée plus vers le relationnel.
Et pourquoi vous avez arrêté, ça a duré 7 ans,
oui,
votre métier d'infirmière?
Alors oui, début 2022, du coup, j'ai démissionné parce que ça a été un peu compliqué ces dernières années avec la crise Covid.
Oui.
Pas mal de pression, de stress, et moi je m'y retrouvais plus trop dans ce métier. Et ça tombait bien, c'est que j'avais fini ma formation de sophrologue en même temps, donc finalement c'est un peu la crise Covid aussi qui m'a poussée à faire autre chose. J'aurais pas cru m'installer si vite à mon compte, mais finalement.
Mais les horaires compliqués aussi peut-être, là c'est différent, oui, parce que vous adaptez vos horaires, vous travaillez pas de nuit.
Non.
Quoique ça peut vous arriver si vraiment vous avez une personne qui est vraiment très très mal, que vous suivez depuis quelque temps, où vous leur expliquez que la nuit c'est la nuit, il faut se reposer, il faut se détendre.
Non, jusque là j'ai jamais eu de demande pendant la nuit donc non, ça va, c'est des horaires de journée, et effectivement ça m'a permis quand même de ralentir le rythme, de me lever moins tôt, ce que j'apprécie aussi, et puis d'organiser mon temps comme je veux. Donc parfois je travaille quand même les week-ends, je fais des ateliers, je prépare ma semaine, mais disons que c'est moi qui choisis, donc c'est moins vécu comme une contrainte.
Et comment vous êtes devenue aussi infirmière, parce que c'est une lourde responsabilité, il faut aussi avoir les épaules assez costauds, parce que vous pouvez être régulièrement face à la mort.
Mmh. C'est un métier qui m'a toujours attirée, quand j'étais adolescente. Au départ, je voulais être puéricultrice. Finalement, je ne me suis pas spécialisée. Mais vraiment, non, ça m'a toujours attirée d'être au contact des gens. Et effectivement, oui, surtout quand je travaille en EHPAD, on peut être souvent au contact de personnes qui vont décéder. Mais finalement, c'est plutôt beau quand on peut accompagner correctement, finalement jusqu'au bout. Et on a beaucoup de reconnaissance, surtout, que ce soit des patients, des familles. Donc c'est un métier qui porte aussi pas mal. Et
c'est le plus beau métier du monde.
C'est un beau métier, oui, qui devient difficile en ce moment.
Oui, depuis quelques années, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et ça doit être pas simple, ça doit être très compliqué aussi, parce que vous vous attachez aussi à certaines personnes.
Oui.
Et ça peut vous faire craquer. Est-ce que vous avez déjà craqué ou pas?
Moi non, j'ai pas craqué, c'est pas ça qui m'a fait craquer, on va dire, parce que c'est vrai qu'on s'attache aux gens, on n'est pas insensible, mais on arrive quand même à prendre de la distance et à garder notre rôle en tant que professionnel. Ce qui fait plus craquer, je dirais, c'est le manque d'effectifs et le fait que voilà, ça tire vraiment sur la corde et on s'épuise. C'est plus ça, moi par exemple, qui m'a fait partir de la maison de retraite. C'était juste plus possible en fait.
Et vous n'avez pas essayé de pratiquer en même temps justement la sophrologie, non ?
J'ai fait avant.
Genre vos 7 ans d'infirmière ou pas ? Est-ce que vous aviez vous-même peut-être consulté ou pas ?
Oui, j'ai découvert la sophrologie déjà à l'adolescence, j'en ai fait en groupe, et j'ai eu un suivi individuel aussi pour moi, pour m'aider justement aussi à gérer mes émotions, mes peurs, prendre confiance en moi. Donc oui, effectivement, en parallèle, j'avais de temps en temps des petits rendez-vous pour moi aussi.
Et aujourd'hui, vous vous sentez bien, puisque vous savez faire de la sophrologie, de la sylvothérapie, et aussi vous êtes conseillère en fleurs de Bac, donc vous utilisez ça bien évidemment pour vous aussi.
Oui, c'est vrai que moi je l'utilise pour moi aussi au quotidien, et puis de toute façon, je continue à apprendre aussi, je pense que voilà, ça s'arrête jamais, et puis voilà, j'ai mes failles comme tout le monde, donc moi aussi j'ai besoin de me recentrer, de prendre des temps pour moi, de faire des pauses, surtout quand on accompagne les autres, c'est important.
Et vous conseillez beaucoup aussi au sein de votre famille, dans votre entourage ?
Oui, j'aime bien, enfin j'en parle en tout cas beaucoup à mes amis, ma famille, je leur propose des petits flacons fleurs de Bac, ils sont déjà venus à mes ateliers aussi, donc oui, ça, j'en parle beaucoup et ils savent que c'est un sujet qui me plaît particulièrement.
Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces flacons ? Donc c'est une composition de différentes fleurs ou c'est des flacons avec des fleurs différentes ?
Alors les fleurs de Bac, voilà, c'est vraiment des élixirs floraux qui ont été mis au point par le docteur Bac du coup, et qui permettent de gérer les émotions difficiles qu'on traverse, ça peut être des émotions passagères ou plus ancrées. Et le but, voilà, ça va être que on va conseiller des fleurs à la personne qui vient nous voir en fonction des émotions qu'elle présente. Et puis ensuite, elle va pouvoir du coup faire son petit flacon personnalisé où on peut mettre jusqu'à 7 fleurs maximum par flacon, sachant qu'il y en a 38 en tout.
Ça peut être quoi comme type de fleurs ? Peut-être pas les tulipes, les marguerites,
non,
les coquelicots, non ?
Non, ça va pas être ces fleurs-là. En plus, moi, je les connais plus en anglais, donc j'ai du mal à vous dire exactement. Et voilà, vous avez par exemple la fleur de châtaignier, le bourgeon de marronnier. Je suis en train de chercher les correspondances en français. Mais le but, ça va être vraiment de faire un petit flacon personnalisé qui corresponde vraiment aux émotions que traverse la personne. Et qu'elle puisse le prendre régulièrement sur à peu près 3 semaines.
Donc ça se boit ?
Alors ça se prend dans la bouche, ça peut être soit en spray ou on prend 3-4 gouttes sous la langue ou juste on met 2 sprays dans la bouche.
Et c'est agréable en règle générale ? Oui.
Ça a pas de goût en fait.
Non, ça a pas de goût.
Non. Non.
On ça peut boire pas... un verre d'eau derrière de toute façon.
Tout à fait. Pour... Ça peut même se mettre directement dans l'eau si on n'a pas de flacon, dans sa bouteille d'eau de la journée ou dans un verre d'eau. Et ça a pas particulièrement de goût. Et le but, c'est de le prendre le plus fréquemment possible, minimum 4 fois par jour pendant à peu près 3 semaines. On va vraiment apporter le message au corps le plus fréquemment possible.
Et on revient vous voir après, quelques semaines, quelques mois après, pour parler justement des effets.
Alors oui, l'idéal, c'est de pouvoir revenir justement reprendre un rendez-vous 3 semaines après pour voir l'évolution, voir si les émotions ont bougé. Alors, si c'est toujours les mêmes, c'est peut-être qu'il faut les prendre plus longtemps ou peut-être qu'on va réajuster le mélange. Et puis vraiment voir la première séance, par exemple, on va mettre des fleurs dedans qui correspondent vraiment aux émotions qui prédominent chez la personne. Et puis peut-être que quand elle va revenir dans 3 semaines, cette émotion-là sera plus d'actualité, mais il y aura une autre qui aura émergé. Et le petit à petit, c'est vraiment d'aller couche par couche, revenir à l'intérieur.
Je peux changer de flacon avec d'autres types de fleurs aussi.
Oui. On peut vraiment réajuster, mettre des fleurs complètement différentes parce qu'on s'attache vraiment aux émotions du jour, en fait. Et dans 3 semaines, ça aura probablement évolué de toute façon.
Et pour revenir sur la sylvothérapie, du coup, vous organisez des séances en groupe, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. En règle générale, c'est une fois par mois, une fois par semaine, non ?
Alors, j'en ai fait beaucoup sur le printemps et l'été. Là, en ce moment, c'est plutôt une fois par mois, effectivement. Je maintiens quand même en hiver parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas sortir. Bon, sauf si vraiment il pleut beaucoup, là, je reporte.
Et puis les arbres ont besoin d'amour et d'affection quand même,
voilà.
Même s'il fait froid.
Donc oui, je continue à faire à peu près une fois par mois et je mets à chaque fois à jour, soit sur mon site internet ou sur les réseaux, sur Facebook, Instagram.
Oui, vous êtes présente, effectivement. Vous avez un site, hein, je ne sais plus comment il s'appelle. On tape Juliette Joasile de toute façon, oui, et on tombe dessus, presque.
Alors, vous pouvez écrire Juliette Joasile, sophrologue à Butterie, ou alors mon site, c'est assez simple, c'est sophroenfleurs.com. Pour associer sophrologie et fleurs de Bac.
Donc, vous arrivez aussi quand même à souffler avec tout ça, parce que vous emmagasinez beaucoup d'énergie des autres aussi, et il faut aussi ce trop-plein d'énergie l'évacuer pour vous. Vous prenez des temps de pause aussi régulièrement, en semaine ou une fois par mois.
Oui. Et puis justement, comme je suis c'est moi qui fais mes horaires, ça arrive souvent que j'ai des petits trous dans la journée, par exemple entre deux rendez-vous, donc j'ai aussi du temps pour moi. Et puis moi-même, je vais, par exemple, pour me ressourcer, beaucoup me promener en forêt, déjà pour repérer les chemins pour les prochains bains de forêt. Et puis moi, personnellement, ça me fait du bien aussi, ça me ressource. Donc oui, j'essaye vraiment chaque jour de prendre un petit temps, soit pour méditer, pour me poser.
Merci beaucoup, Juliette Joasile, d'être passée ce matin sur IDFM. Vous êtes donc, je le reprécise, sophrologue, sylvothérapeute et conseillère en fleurs de Bac, et vous exercez depuis février dernier sur la commune de Butry-sur-Oise. Bonne continuation. Vos projets, c'est quoi par la suite ?
Continuer à me former dans ce domaine-là, à élargir aussi justement mes demandes, parce que moi j'adore me former. Et puis par exemple, on a un beau projet avec une amie naturopathe pour février. On propose une petite retraite de 3 jours qui va mêler sophrologie et naturopathie, qui aura lieu à La Roche-Guyon. Donc voilà, si ça vous intéresse, il reste encore de la place, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Très bien. Et vous êtes déjà partie aussi à l'étranger ou pas ?
Par rapport au travail ?
Pour découvrir, oui, d'autres méthodes, d'autres pratiques par rapport à votre activité professionnelle.
J'ai aimé un voyage que j'ai fait au Népal il y a un moment où justement on a pu apprécier tous les bienfaits de la méditation. Après, pour l'instant, c'est vrai que je pratique surtout en France.
Merci encore d'être passée, Juliette Joasile, ce matin
beaucoup.
Sur IDFM Radio. Bon retour à Butry-sur-Oise.
Saison entière, 6 pieds sous terre, me suis enfermée. J'avais envie d'un peu de lui, me suis enfermée.